Radio Tout Monde, antenne ARG, Animation Research Group.
Alors, bonsoir à tous et bienvenue à l'espace Casma. Alors, vous allez vous dire, bon, j'ai un micro dans lequel je parle, mais vous ne m'entendez pas d'amplification. Alors, c'est un dispositif qu'on a élaboré cet après-midi pour les personnes qui sont timides. On s'est rendu compte que lorsque des gens s'entendent parler, et surtout quand ils sont un peu timides, ce qui n'est pas du tout mon cas, moi j'aime bien m'entendre parler, tout ça, mais là, bon, du coup, ce soir, je ne vais pas m'entendre. Et en général, les personnes timides préfèrent ne pas s'entendre parler. Du coup, ça donne une espèce de côté un peu étrange de parler dans un micro sans amplification. Mais comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, si vous n'êtes pas habitué à l'espace Casma, on enregistre la plupart des soirées qu'on peut réécouter sur la radio... la plateforme radio de Casma qui s'appelle la R22 Tout Monde, r22.fr. Et donc, c'est pour ça qu'on a des micros. Donc ça, c'était un peu la fin de la page de publicité à l'introduction de la R22. Je voulais remercier tous d'être avec nous et remercier aussi le groupe ARC d'avoir passé une semaine ici. Donc moi, je suis Olivier Marbeuf, je suis le directeur de Casma. Quelqu'un m'a demandé ce soir de me présenter, alors donc je me présente pour une fois. Voilà, alors du coup, je crois que pour me présenter, en tout cas, pour présenter aussi l'équipe ici à Casma, c'est peut-être vous expliquer très brièvement dans quel cadre s'inscrit en fait l'accueil du collectif ARG. Alors il y a un peu deux sources d'origine. L'une est à côté de moi, Alexander Cello, avec qui on a collaboré déjà par le passé à l'espace Casma. On avait montré au New Title il y a quelques années de ça dans le cadre d'une exposition qui s'appelait « Mandrake a disparu » sur la question de la disparition du magicien, vous voyez, le tour de magie, et puis après le magicien qui disparaît. Je n'ai pas parlé d'exposition maintenant, mais en tout cas, c'était quelque chose qui parlait de la question de l'illusion comme processus de confiance entre celui qui fait le tour et celui qui le regarde, en résumé. Et donc, la question de l'animation, dans le cadre de cette exposition, avait pour sens de dire « on voit qu'une image bouge si on a envie d'y croire ». Et donc ça reliait, je pense, certaines problématiques que pose aussi le groupe ARG autour de la question de l'animation élargie, c'est-à-dire la question aussi d'un désir, je pense, de croyance, de voir quelque chose et une espèce d'engagement du spectateur dans la proposition qui lui est faite de voir que quelque chose se passe. L'invitation aussi ce soir du collectif ARG et toute cette semaine, puisqu'ils sont avec nous donc, depuis le début de la semaine, participent aussi à un programme à l'espace Casma qui s'appelle Plateforme. Alors c'est un peu plus qu'un programme, mais donc depuis le début de l'année 2017, on met en œuvre avec ici l'équipe de Casma une espèce de réflexion autour de l'activité de ce qu'on peut appeler un centre d'art. Alors Casma n'est pas qu'un centre d'art, mais disons une réflexion autour de la manière de programmer et de fabriquer du savoir et des formes dans le cadre d'un lieu comme ici. Et cette année 2017, c'est une année où on a décidé de fabriquer la presque intégralité du programme sous la forme d'invitations à des artistes, à des collectifs, des gens qui sont aussi liés à des pratiques artistiques, mais pas que, aussi à des collectifs d'activistes, à des gens qui veulent faire des recherches. Et donc ces différentes invitations, bout à bout, ont fabriqué le programme de cette année, avec l'idée progressivement de faire évoluer la programmation du lieu comme un protocole ouvert, avec des communautés de gens qui vont avec nous fabriquer un petit peu ce qu'on montre ici. Donc ça a fait une année un peu particulière, parce qu'après 17 ans, c'est la première année où on n'a pas eu formellement d'exposition, et à la fois on a eu beaucoup de moments d'exposition, je pense. Et donc dans ce cadre-là, l'idée voilà, était d'inviter le collectif. Alors moi, ce qui m'intéresse ici dans le lieu, c'est aussi d'avoir une certaine continuité de relation avec les gens qu'on invite. Comme j'étais éditeur auparavant, je dis souvent, on devient éditeur quand on édite au moins deux livres d'un écrivain. C'est-à-dire quand on a, après une première fois, fait une deuxième chose avec. Donc avec Alexander, c'était l'occasion d'avoir une deuxième chose et qui, donc, quelque part, ouvre à l'idée aussi que les gens avec qui on travaille ne sont pas simplement des gens qu'on accueille dans notre petite boutique, comme ça, mais sont des gens qui fabriquent le projet lui-même. C'est-à-dire pour moi, la question d'un lieu comme ici, ce n'est pas une question institutionnelle au sens qu'il y a un mur, l'électricité. Pour moi, le lieu, il n'existe pas quand on n'est pas là-dedans. Là, aujourd'hui, on fabrique un lieu. ARG nous propose un lieu et c'est dans le lieu de ARG que cette semaine, on a vécu. Et ce soir, on va passer la soirée. Donc, c'est aussi cette idée-là d'accueillir. Et plus les gens connaissent et pratiquent l'endroit où on est, plus finement on arrive à inventer Casma ensemble et pas simplement des gens viennent faire une exposition ou viennent montrer quelque chose, mais on invente le projet entier, quoi. Voilà, c'était ça un peu le sens de l'invitation. Voilà, ça c'était pour la grande introduction. Pour venir maintenant à ce qu'on va voir ce soir, pour donner juste un élément de programme, on voulait prendre un petit temps d'échange pour discuter avec le collectif de leur espace de recherche. Alors vous avez pu voir dans l'exposition ici, quoi, dans l'installation, différents travaux en cours ou fragments de travaux en cours qui sont plutôt des productions individuelles des membres du collectif, sur lesquelles on pourra revenir, mais vous avez eu l'occasion, je pense, d'échanger, de découvrir nombre d'entre elles, et on voulait peut-être plus se focaliser maintenant sur plutôt le projet collectif qui va animer le projet de le travail de Arg. Voilà, donc parler un petit peu de ce travail qui à la fois est présenté ici dans une phase de recherche, mais qui est aussi un projet continu à Mons, autour, voilà, d'un corpus d'archives de Paul Hotlet. Peut-être qu'on aura peut-être l'occasion, vous, chacun, de parler de ce personnage-là, et puis chacun de donner un peu le regard. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui, dans une pratique, on va dire, de bibliographe et de collectionneur, va accumuler un ensemble de documents et dans une espèce de forme qui aujourd'hui peut aussi donner à penser à des formes qu'on connaît aujourd'hui avec Internet, c'est-à-dire en reliant à la fois des items et en créant en tout cas un ensemble de relations entre des archives qui n'est pas simplement une classification dans une forme classique, mais plutôt une espèce de constellation de relations entre des différentes formes de documents. Et donc le projet collectif du collectif ARC, c'est d'explorer ce matériau-là. Donc ça, c'est un petit peu de ça que j'avais envie qu'on parle ce soir. Comment explorer un matériau d'archives qui est donc assez touffu, et comment le mettre en récit, ce que je pense que c'est aussi une dynamique, et que vient faire la question de l'animation dans cette histoire, puisqu'il s'agit de parler d'une forme étendue de l'animation, et ne serait-ce que ce terme-là, je pense, articule, nécessite peut-être qu'on en dise un peu plus. Alors juste d'un point de vue technique, je pense qu'Alexander va répondre en anglais. J'espère que vous êtes tous à peu près confortables, sinon je fais une traduction. Mais on peut poser les questions en français. Non, personne n'est parfait, Alexander, ça va. Hein. On ne parle pas tous français, quoi. Non, mais... Non, mais en tout cas, voilà. I think it's possible for me to translate. Et si les gens ne sont pas confort avec l'anglais, je peux aussi faire une petite traduction à chaque fois. Perhaps you can begin about perhaps your first interest with the Paul Hotlet collection, and as I said just before, the relationship that you have with the practice of the animation.
So I guess to the Paul Hotlet question, everybody can say something after, but maybe what is interesting is a bit to shape our interest also, really, like where does the interest for a figure or a practice like the practice of Paul Hotlet comes from. And this is based, in fact, on a research that we do as a group, as you said, also for quite a while already. We met in a frame of an art school in Brussels, of the ARC, and since now 3 years, maybe, we try to reflect on animation as a concept, let's say, as a tool that goes beyond a technical or genre predefinition of this, and that can be redefined through particular interests that actually we share in our practices. So one base of our work always were the actual single individual practices that we all have. And in the beginning of the project, that was why we are showing here on the title again. In fact, it's a project also that as my practice, it was one of the initial points. But then, in fact, the group constituted by not by a conceptual framework, or not by basically knowing exactly what we were searching for, but by these practices. That is also why we also share some of the work in progress of group members here, because that always have been an important source for the work. From there, we try to work a bit deeper in this notion of animation, and there were a lot of different aspects that started to shape, let's say. One, to give an example, is the aspect of how animation practices can relate to a notion of memory reconstruction or memory reconstitution somehow. For example, people who not from the beginning on were members of the group, like Nicolas, who's particularly working about the relation of animation practices and, for example, a notion of post-memory, like certain researchers in memory studies brought strong impulses into the practice from there. And it is, in fact, from this notion of animation as a tool that focuses, in fact, not necessarily on the continuity, not on the consistency of a narrative, but on the gaps, on the breaks, on the discontinuities that create a certain activity in the constitution of what I see in the very spectatorship, and how this relates to practices of memory and practices of the constitution of documents. It was from this point that our interest to the figure of Paul Ottley and to the archives of the Mundaneum grew, right? And maybe now I stop to speak and somebody else says, what actually Ottley and the Mundaneum is? I can just pass. Oh, okay.
Peut-être qu'on pourrait continuer sur cette question qu'a introduit Alexander de... Non, mais juste pour t'introduire, Olivia. Sur cette question de discontinuité, parce que la question de l'animation pose quand même la question d'un mouvement et d'une discontinuité. On parlera aussi avec Nicolas de la question de la discontinuité entre le rapport entre l'histoire et la mémoire aussi, et la manière dont certains faits historiques ont des trous, et donc quelque part l'animation est aussi travaillée peut-être dans les pointillés et par-dessus les trous. Olivia, toi que tu as aussi travaillé, on verra un film de toi ce soir en plus, le dossier de Marie-Ès, tu as aussi travaillé sur la question de la reconstitution quelque part de l'histoire et avec l'outil d'animation.
Oui, effectivement. Oui, mais pour moi, c'était un contemporain en fait au moment où on a constitué ce groupe, que j'ai commencé à vraiment prendre l'animation comme outil de travail. Et réfléchir sur ce rapport avec la mémoire, je pense. Et dans le film qu'après peut-être vous pourrez voir, c'est un travail de reconstruction de mémoire d'une femme qui perd sa mémoire et un tentative, un effort d'aller vers une reconstruction, vers combler un vide. Et je pense que pour moi, l'animation, ça se joue dans cet effort de combler un vide qui distancie deux personnes éloignées dans l'espace, dans le temps, par exemple, mais aussi dans deux fragments, dans deux images, deux fragments et ça, c'est intéressant, comme on a introduit, comme Alexander disait, c'est vraiment la place que le spectateur va prendre là-dedans, son effort aussi de relier ces deux fragments. Voilà, moi, j'ai commencé vraiment à trouver ma place dans ces discours qui circulaient. Après, je ne sais pas par rapport si on veut aller vers Ottley. Voilà, c'est vers notre recherche de maintenant. Je pense qu'il y a aussi cette idée de en gros, essayer de réactiver une mémoire latente, un matériel d'archives qui attendent d'être réactives. Je pense que c'est pour ça que on est allé à la recherche de enfin, on est allé vers cet archive de Paul Hautelet. C'est un peu pour jouer sur ça, mais voilà, je ne sais pas si c'est nécessaire plutôt une contextualisation de qu'est-ce que c'est l'archive de Paul Hautelet.
C'est bien d'en dire un petit peu plus quand même sur quels sont les éléments qui la constituent.
On peut s'occuper de cette tâche, je ne sais pas.
You can give something to the other side as
well. Ouais, juste pour partager. Ouais.
Bon, allez.
Non, mais
y a-t-il un spécialiste de Paul Hautelet dans la salle?
Non, pas encore. Oui, donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est assez obscur en vrai. Donc c'est Paul Hautelet, c'était un peu c'est une figure de savant fou, d'archiviste fou, disons, de belge, et qui a notamment, il est célèbre parce que c'est lui qui a inventé le système de classification avec lequel on classifie décimal. Qu'on utilise dans les bibliothèques pour la classification des livres. Et en fait, il a, en plus de plein de choses qu'il a faites, il avait cette vision très utopiste en fait, de créer une espèce d'encyclopédie qui devait être un miroir du monde, en fait, qui devait recueillir tout le savoir, tous les sujets existants au monde de façon accessible à un public. Donc il y avait vraiment une visée aussi très... pédagogique dans un certain sens, c'est très comment ?
Social.
Ouais. Et donc il a commencé à accumuler en fait très vite et c'est une pratique qui a duré jusqu'à sa mort. Des planches qui compilaient en collaboration avec des illustrateurs, avec plein d'autres gens qui voilà où il créait cette encyclopédie du monde. Et oui, je pense que ce qui nous intéressait c'est déjà cette aussi le parcours de ces archives, parce que c'est une figure qui est tombée dans l'oubli assez vite à cause de circonstances politiques. Et, voilà, il est mort jusqu'au commencement de la Seconde Guerre mondiale. Et ces archives ont été plein de fois déplacées, en partie détruites, un peu tombées dans l'oubli. Et actuellement, elles sont. On voit quelques images dans la première pièce. Elles se trouvent à Mons, donc dans ce nouveau bâtiment du Mondadeum, où c'est une espèce de labyrinthe avec des tiroirs et des kilomètres et des kilomètres de tiroirs remplis de documents. Et oui, ce qui nous intéressait, c'était, comme disait Olivier, de réactiver ces documents, pas forcément de la façon dont voulait le faire Hautelet, parce que voilà, il a une approche très très il y a une vision du monde très forte en fait qui est contenue dans ces planches et dont on peut les voir. Il y en a certaines qui sont exposées où elles sont très signifiées. Voilà, il nous dit comment voir le monde, comment il y a une planche sur le chaos par exemple sur laquelle on a eu une pratique de jeu. C'est tout très schématisé, surschématisé, classifié et tout. Et ce qui nous intéressait, en fait, c'est de se faufiler un peu dans les interstices laissés par cette vision très globale et essayer de trouver des failles par une pratique de jeu, beaucoup. Enfin, on a beaucoup utilisé le jeu, et par une pratique d'association, de décontextualisation et de... voilà.
Ce qui me semble... Il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir. Il y a peut-être... Je vais passer à ma gauche, du coup. Il y a deux choses, mais qui sont un peu deux choses différentes, mais qui peuvent offrir deux terrains un peu de conversation. La première d'entre elles, c'est vrai qu'il y a cette question-là de l'actualisation. Je pense que dans le geste que vous portez tous, il y a la problématique de notre rapport à l'archive dans le moment contemporain, qui n'est plus simplement un rapport de conservation du passé, mais un matériau qu'on ne va pas traiter comme il a été traité par le passé, en le laissant inscrit comme trace du passé, mais quelque part en le ramenant dans une possibilité. Tu as parlé d'activation, une possibilité de le remettre en vie. Alors on ira peut-être sur le terrain de la question du jeu. Moi, qui une question qui m'intéresse beaucoup, parce que je pense que c'est la question, c'est la relation contemporaine à l'archive qui se joue, je pense, dans le champ de l'art, mais aussi dans d'autres pratiques. C'est-à-dire que faire d'une société, notamment occidentale, où la question de l'enregistrement de la mémoire est devenue presque problématique en termes de volume. Et la question un peu contingente qui s'adresse aussi pour certains d'entre vous qui sont juste des gens qui finissaient les écoles. Moi, je sais qu'en tant qu'enseignant, il y a vraiment une typologie d'étudiants qui accumulent de documents. C'est une espèce de problématique quand tu es enseignant. Il y a toujours un ensemble de gens qui, pendant les 5 années au Beaux-Arts, quand j'étais enseignant, qui accumulent de la matière. Et donc, je trouvais ça vraiment hyper intéressant au départ, parce que je me suis dit, voilà des gens qui s'attaquent à cette fameuse question qui est vraiment extrêmement présente, et peut-être qui vient de Warburg, mais après qui va prendre plein de formes dans les écoles d'art, d'une forme de sécurisation de l'espace de la pensée par accumulation de la matière. Donc l'étudiant, première année, deuxième année, troisième année, cinquième année, la matière est là, l'impression qu'on pourrait construire une espèce de forteresse derrière sa matière, et quelque part sans vraiment l'attaquer, et donc trouver des attaques dans la matière. Presque quelque part, dans un rapport presque trop respectueux à la valeur potentielle d'une matière, ou parfois d'une archive, ou parfois d'une recherche, ou parfois... Et j'ai l'impression, là, dans votre travail, directement, le pas est passé de dire on attaque dans le... on coupe dans le vif. On voit les animations, d'ailleurs, qui sont présentées là, des pratiques de jeu et de table, où quelque part, presque, à la rigueur, le geste d'agir sur l'archive est mis presque comme une nécessité par rapport à la notion de la conserver, de l'ordonner, quelque part une espèce de rapport un peu d'incorrection par rapport à l'ordre de l'archive. Je peux répondre à cette question.
Avec plaisir. Oui, enfin, il y a énormément de choses qui peuvent être dites à partir de ça. Ouais, peut-être un éclairage là-dessus. Moi, j'ai une pratique qui est un peu... à deux dimensions, dans le sens où j'ai une pratique artistique, mais aussi une pratique plus théorique, où je fais justement une thèse de doctorat sur la transmission de la mémoire. Et en fait, j'ai un peu observé le parcours de personnes qui utilisent l'animation pour justement travailler sur la notion du passé, pour se réapproprier des archives. Et après les avoir rencontrés, après avoir discuté avec eux, on se rend vraiment compte que une première chose par rapport au sortir de l'école, il y a énormément de gens qui font des films d'animation sur le rapport à la mémoire au sortir de l'école, quoi. Donc c'est vraiment des films de transition qui vont les accompagner du moment de formation au moment d'autonomisation. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu toute une accumulation, puis à un moment donné, de se dire, OK, de cette accumulation, maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Alors, en quoi l'animation est intéressante à ce moment-là? C'est que... d'une part, l'animation permet non seulement de raconter quelque chose, mais aussi d'acter un processus en train de se passer. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres formes d'expression, l'animation se rejoue à chaque fois qu'on le revoit. Il y a une forme performative qui est très très forte avec l'animation. C'est-à-dire que ces gens vont s'autonomiser tout en rendant visible leur facteur d'autonomisation, la manière dont ils vont jongler avec les archives, de montrer comment ils vont procéder. Et c'est comme un passage, comme un témoignage de ce qu'on va être capable de faire et d'agencer, tout en laissant une place, tout en montrant en fait ce passage-là. Et alors la notion de la mémoire là est très importante parce que elle joue un rôle crucial dans la mesure où on remarque qu'il y a beaucoup de plus en plus aujourd'hui de démarches qu'on appelle post-mémorielles, c'est-à-dire où on essaie de se reconnecter avec le passé, un passé qu'on n'a pas vécu directement, mais qui nous aurait été d'une certaine manière transmise par des personnes, soit parce qu'ils n'en ont pas parlé, soit parce qu'il y a un trou, soit parce qu'il y a un endroit où la parole n'a pas pu circuler. Et on va essayer de se réapproprier un trou dans une circulation du souvenir. Et ça, c'est souvent une dimension familiale. Donc ça veut dire que dans la famille, on n'a pas parlé de quelque chose pour une raison X ou Y, et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette chose nous a pas été transmise. Et même au-delà de ça, il y a un rapprochement qui peut être fait entre la situation des personnes qui étaient en train de vivre quelque chose et nous-mêmes en train de produire un film d'animation. C'est-à-dire qu'on remarque qu'il y a... et en fait, je remarque ça même chez moi. Par exemple, une volonté chez moi de me rapprocher de ma grand-mère à un moment donné pour que ce rapprochement avec elle me permette d'éclairer la posture que je vais avoir par rapport au monde aujourd'hui. Et que ma grand-mère a vécu la colonisation au Congo, m'en a jamais parlé. Et j'essaye de comprendre ce qu'elle a pu vivre. Et elle m'aide d'une certaine manière. J'en fais un allié dans cette manière. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais je peux parler de ça.
Je vais rajouter Je voulais rajouter quelque chose avant de te passer la parole. C'est intéressant parce que tu évoques une donnée qui est pareille, qui était une note que j'ai prise, qui n'est pas du tout de moi, mais que j'emprunte à Roland Barthes, sur la question des grands-parents, parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui travaillaient dessus. Et Barthes dit, voilà, bon, les parents, c'est de l'ordre c'est le documentaire, et les grands-parents, c'est le début de la fiction. C'est le début des gens qu'on connaît encore assez pour être quelque chose de parent, mais pas assez pour ne pas être dans la question de la fiction. Et il dit, c'est pour ça qu'à un moment donné, le rapport à la mise en récit est toujours lié aux grands-parents. Quoi. Lui, c'est son hypothèse de travail. Lui, en plus, qui a notamment un grand-père qui a longtemps été, comment dire, écarté de la lumière de l'histoire, parce qu'on connaît le rapport qu'il a avec sa mère, on connaît moins le rapport qu'il a avec le père de sa mère, qui est Binger, et qui a donné son nom à Bingerville, et qui est quelqu'un qui a colonisé la Côte d'Ivoire. Et donc il a un rapport à l'histoire coloniale très fort, Barthes, qui apparaît dans quasiment aucun de ses livres, et qui est un truc assez méconnu. Et lui-même, quand il va parler de la question de la biographie, il va directement dire, de toute façon, c'est la mise en fiction, la biographie, dans la mesure où, quelque part, c'est le rapport au grand-père et donc au récit non raconté qui va être la question biographique et à la fois la question de la fiction. C'est-à-dire qu'il faut à la fois témoigner et inventer en même temps. Et du coup, je rejoins cette idée de l'animation qui comble le trou et qui fait peut-être un geste de fiction.
Je vais rajouter une petite chose, c'est que la notion de constitution identitaire est vraiment importante là-dedans. C'est-à-dire que quand je parle, par exemple, de ce passage entre les études et ce monde d'artiste autonome, c'est de se dire, voilà, quelle est mon identité, quelle est mon identité artistique, on rejoint l'identité personnelle et l'identité artistique. Et pour comprendre son identité, c'est comprendre d'où on vient. Mais le fait d'aller chercher des choses qui sont loin aussi et qui font qu'il y a des trous qui sont aussi importants, et les trous en animation ont une fonction vraiment importante, vont faire qu'il va y avoir un investissement imaginaire qui va être possible dans l'espace qui est laissé. Parce que la constitution d'identité ne se fait pas uniquement par ce qu'on nous dit du passé, mais surtout par la manière dont on va se la réapproprier. Et ces récits post-mémoriaux, par exemple, donnent vraiment un espace, justement, parce qu'il y a un espace de création, il y a un espace aussi d'enquête, de mystère, et qui façonne aussi une forme de dramaturgie. Parce que c'est l'idée d'aller sur une trace, et puis de ne pas forcément les trouver, et d'inventer. Mais en inventant, on s'invente nous-mêmes, on invente sa personnalité, quoi.
Mais du coup, par rapport à l'archive de Paul Hautelet, c'est assez intéressant ça, parce que le laps de temps qui s'est écoulé entre cette archive qui ne sont pas nos grands-parents, mais qui date encore d'une génération antérieure, est encore plus grand. Et la notion d'enquête là est particulièrement présente, nous, dans notre démarche, quand on va se rendre dans ce lieu qu'est le Mundaneum, qui est un lieu très impressionnant, et où on rentre et il y a ces énormes armoires toutes fermées, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, remplies d'archives qui n'ont jamais été explorées et qui peut-être ne le seront jamais en partie explorées. Et donc, finalement, l'accès qu'on a eu est très limité parce que la matière qui a été produite est tellement énorme que ce qu'on peut explorer est à peine... Enfin, d'abord, ce qui a été numérisé n'est que de 10%. Donc, et dans ces 10%, nous, on a été puisés encore des petites choses dedans. Et du coup, on a finalement ressorti vraiment... très peu de choses, mais des choses qui nous parlaient et qui du coup reflètent aussi un rapport qu'on a avec ces documents-là. Et c'est assez intéressant de voir notamment le travail qui a été fait, parce qu'on y a été individuellement ou par groupe de deux au Mundaneum, et de voir ce qui en ressortait à chaque fois, parce que chacun avait sa vision sur les archives, n'allait pas chercher les mêmes documents. Et la confrontation de ces choix qui ont été faits par chacun d'entre nous dans ces jeux permettent de pratiquer, d'avoir de vraiment réanimer ces archives, d'abord entre nous au sein du collectif, et puis avec vous aujourd'hui, et voilà, on laisse avec d'autres plus tard, voilà. On laisse faire.
Pour revenir sur la question du jeu, parce que voilà, on l'a évoqué, Myriam en a parlé, avec la notion de la question du jeu, moi, qui m'intéresse dans la mesure où, comme je l'ai dit auparavant, ou l'attention, vous. Dans la notion du jeu, parce que dans la mesure où, en fait, effectivement, la notion d'archive, historiquement, renvoie à la notion aussi d'une forme qui est liée à la recherche, qui est liée aussi à des formes qui sont des formes. Forme de respect d'un ordre des choses. Moi, je sais qu'on a, dans le début des années 2000, il y a eu de nombreux, comment dire, temps forts qui ont rassemblé, on va dire, toute une génération d'artistes qui avaient des pratiques de recherche avec des gens qui venaient plutôt de l'histoire et de l'archive, avec une certaine crispation des historiens par rapport aux pratiques un peu cavalières des artistes. C'était une manière nouvelle de toucher à l'archive. Et on s'était rendu compte, même des historiens qui étaient de la même génération, qu'ils avaient un rapport beaucoup plus sacré à la question de la précision de l'archive, à la question, attention, faut pas mélanger ça avec ça, que l'influence de Warburg sur le champ de l'art était un truc qui les embêtait un peu, parce que ça engageait beaucoup la mise en relation, plutôt que l'étude de l'archive pour elle-même, la précision de fait. Là, du coup, vous introduisez à la question du jeu, qui me semble être à la fois un modus operandi assez spécifique du champ de l'art, pourtant qui n'est pas toujours nommé comme ça. Oser dire jeu, ça paraît pas très sérieux. Donc du coup, voilà.
Bah, en fait, je pense que consciemment, dans le groupe, la notion de jeu, elle est née après en fait, toute la recherche de ces documents ou la mise en place de ces documents qu'on a récupérés au Mondaneum. Parce qu'on s'est retrouvé en fait, face à une banque d'images incroyable qui était complètement décontextualisée. Et quand on a commencé à travailler en groupe, en fait, il y a eu beaucoup de temps de latence à avoir ces images en main et à pas trop savoir qu'en faire. Et pendant les moments où on ne travaillait pas, entre guillemets, on a commencé à jouer avec ces images, en fait. Ou en tout cas, à jouer tout court. Ce qui a amené le début du site, qui a créé, en fait, une nouvelle interprétation de ces images, en fait. Qui nous ont permis, d'interpréter la sacralisation qu'il y avait de ces images, mais d'une autre manière, parce que je pense que tout le monde ici, enfin tout le groupe, a d'une certaine manière un rapport de, pas de violence, mais en tout cas d'envie de casser justement ce code de sacralisation, parce que on a conscience qu'on est face à une archive qui est historique, qui est ancienne, et chacun avec sa propre histoire a envie d'aller au-delà de ça, en fait, enfin pas d'aller au-delà de ça, mais en tout cas de réactiver ces choses-là d'une manière plus sincère et plus humaine par rapport aussi à un autre contexte, quoi. Ce que tu as dit tout à l'heure, par exemple, par rapport aux étudiants qui accumulent des choses, en fait, je me retrouve complètement dedans parce que je suis en plein dans mes études et qu'effectivement, je suis face à un problème qui est qu'avec une accumulation d'archives, je me crée une personnalité artistique qui ne me correspond pas forcément ou qui, de plus en plus, me semble étrangère parce que j'évolue en parallèle ici aussi, surtout. Et qui me bloque parce que sans pouvoir les jeter, je ne peux pas en faire quelque chose non plus parce que j'ai pas envie d'entrer dans cette matière. C'est des choses finies pour moi. Et ici, constituer une matière mouvante avec une archive ancienne, ça permet aussi d'activer justement un jeu qui est super relaxant, enfin pas relaxant, mais disons qui décomplexe. Voilà, qui décomplexe vachement aussi toute une phase de travail que j'ai ou que j'ai pas justement parce que il y a des complexes qui naissent forcément de ce genre d'accumulation, quoi. Et de pouvoir avoir ces images qui reviennent et qui sont agencées toujours de différentes manières et qui évoluent avec des échanges aussi avec, entre le groupe et maintenant, aujourd'hui pour la première fois, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément ou qui apportent un regard nouveau avec qui on a pu discuter, ça permet et ça permettra encore de modifier ces archives et de petit à petit en fait, reconsidérer l'archive comme quelque chose avec laquelle vraiment on peut jouer et qui a plusieurs histoires en fait et qui peut avoir plusieurs histoires. Voilà.
Yeah, for me is something interesting in this discussion now again to link it back to Otley himself in fact, because I mean we can imagine him really as a bibliothecar, as a kind of librarian who just was one of the early people who discovered that there was a problem with too many books, so to speak. I mean, there was just basically the world was a bit beyond the Gutenberg world. You know, there was so many books, suddenly so much written knowledge produced everywhere that it was impossible for one person to basically get control of this. And his question was a very pragmatic one in the beginning. It was really like, how can we construct a kind of meta structure that allows us to navigate in this kind of knowledge and to share, in fact, this kind of knowledge without necessarily always sharing content, you know, because we cannot know all this content. And so there was a very pragmatic question in the beginning that led at one point, or bit by bit, or gradually, to an extremely speculative utopian vision of what could be this world of a shared knowledge, so to speak. So he came really from the from a pragmatic guy who wanted to develop tools, to somebody who developed this vision, which has some similarities with today's internet, let's say, you know, or with certain search platforms and so on, which led to the fact that search platforms like Google largely instrumentalized him as a kind of pre-thinker of their own structure. But in fact, what we see with Otlev, if we look at the archives, is that a guy who tried to develop these tools, but who was always running against this enormous body of material and like basically against a notion of forgetting and inaccessibility in the very try to make something accessible, you know, like this enormous. But if you see these cards, like these, even these boards where these cards were stored, you cannot imagine, you know, he just tried to make information accessible, and finally everything started to disappear. That's the feeling you get, really. And in fact, one possible answer is to say, yes, he is an ancestor of the internet. But another possible answer would be, okay, how can we actually make productive this very point, like the point of a certain freedom of navigating in knowledge, because the material is so enormous that we cannot access it, actually, you know, even with all the tools that we can develop and so on. And I think the game is one of the possible answers, no, to this, the kind of meandering navigation in this material. The game is one of the possible answers, and I think this is really a strong link for us that really not was there from the beginning, but that sort of grew bit by bit during the research and the confrontation of our notion of animation and these archives, or the, if you want, so even the figure of Otley.
Peut-être que je dirais, du coup, en te suivant, qu'il n'est peut-être pas tant l'ancêtre d'Internet que l'ancêtre du surfing, quoi, du geste de surfer dans le savoir, qui s'opposerait à la connaissance académique, dans le sens de la profondeur, c'est-à-dire encyclopédique. Et le geste de surfer, qui peut paraître un geste péjoratif, cependant, face à l'énormité de la connaissance, lire en surfant, c'est-à-dire en traversant des couches plutôt qu'en approfondissant dans un geste historique de l'académisme, en fait, lire tous les volumes. Et quelque part, ce n'est pas tant l'Internet qui est devenu quelque chose de particulier en termes de savoir propriétaire que le geste d'essayer d'avoir une lecture transversale, reliée du monde. Et ce geste de... Moi, je suis quelqu'un qui cherche à réhabiliter la notion de surfer. Parce que quand on dit surfer sur Internet, c'est vraiment qu'on est un peu un espèce de gogol, en fait, quoi. Et en fait, je crois qu'il y a... Parce que c'est pas comme scroller, surfer. Non, parce qu'en fait, il y a la notion d'hypertextualité dans surfer qui est pas dans le scrolling, qui là, effectivement, est un truc de gogol. Je pense que l'idée là-dedans, c'est qu'il y a une idée d'un possible, et pas forcément d'une réalité, mais en tout cas d'une possibilité, que ce soit aussi une pensée par assemblage, c'est-à-dire une pensée par rebond et par association, plutôt qu'une pensée par organisation encyclopédique du savoir. C'est-à-dire peut-être qu'il y a un deuxième savoir qui est un savoir qui relie et qui ne sait pas toujours ce qu'il cherche, mais par contre qui fait lien, qui va aller d'une chose à une autre. Mais après, c'est vrai que je voulais juste séparer la notion de l'Internet qui met en œuvre les stratégies de capitalisation de notre attention, du geste de surfer. Est-ce qu'on peut séparer le fait qu'on surfe du fait de ce que est Internet ? C'était juste...
Vous me dites aussi si c'est hors sujet. En fait, c'était juste parce que vous parlez, il y a mémoire collective. En fait, mémoire, il y a l'encyclopédie universaliste et tout le savoir. Il y a la mémoire individuelle par rapport à toi qui parlais de ta grand-mère et d'autres. Et il y a aussi la mémoire de ce qu'on doit garder ou pas en tant qu'artiste, les archives, les étudiants, etc. Et en fait, il n'y a aucun de vous qui a prononcé le mot oubli. Et en fait, même si je pense que vous en parlez, mais l'oubli, bien sûr, c'est le pendant de la mémoire. Mais j'aimerais savoir, du coup, est-ce qu'il y en a un en particulier qui a plus pris le prisme de l'oubli que de la mémoire ? Voilà.
Because of my French, I'm not entirely sure that I've entirely precisely understood the question. But in fact, I mean, let's say for our research or for the question that we asked towards a notion of, for example, the reconstruction of a memory or the reconstruction of the construction actually of a memory, the notion of forgetting is embedded. It's extremely strongly. It's the same question. To a certain degree, it's the same question, and it's not the same question. But in a way, what we address with the notion of animation is, let's say, different practices or techniques that deal with a form of discontinuity and with an articulation of the gap. For me, the gap. For me, the personal strong question one of the personal main reasons to be interested in animation is also a very personal experience as a German. You have in a certain collectiveness of forgetting processes that are so deeply implemented in any kind of family history, but even on a larger scale history that is. Yes, for example, and it's something that is really it's I would almost say it's a form of physical experience. It's something that really as a traumatic experience, so to speak. And of course, we live in a world where we are definitely not the only ones who deal with these kind of traumatic experiences. But obviously, in the German culture, it's very strongly embedded, and it was also very strongly reflected, for example, as a sort of psychological phenomenon. It's not by chance that a lot of, for example, the post-memory research with Marianne Hirsch and so on, it's a lot of these impulses came from German researchers. I think there is really a kind of I would say physical experience of this notion of an amnesia or a collective forgetting that is so strong that I would say for me, at least personally, that was one of the strongest impulses to be interested in animation. And it was surely one of the impulses that built a strong driving element in the practice of the group. And also one to address the question of an archive like Otley's archive that aimed to gather a form of totality of knowledge and memory, in fact a real social political collective brain, but a brain that memorizes. And I think the interesting thing, the political problem, why I say it's an instrumentalization also, if Google sort of points back to him, I think the question of forgetting is embedded in this, in Otley. I'm not sure how consciously this is, but it is embedded in the practice that he did, at least as we can access it today. Absolutely, complete agreement. We had this discussion with Mundanima. It was very interesting. Even if you consider, obviously, that not all the knowledge cultures are written knowledge culture. I mean, that's something like that was absolutely not. But in this sense, Otley is really a figure of his time also, and a figure of a very particular political discourse that is very, we completely agree. Even if that's a question that is very difficult to address, for example, within the archives of the Mundaneum, we didn't necessarily found a very strong response to this kind of question, but yes, for sure. No?
Peut-être un élément pour compléter ça par rapport au rapport justement à la mémoire et à l'oubli. dans le travail de Paul Ricoeur, et qui travaille beaucoup la mémoire, l'histoire, l'oubli. En fait, il va distinguer différents types d'oubli. Et souvent, l'oubli est perçu négativement parce que c'est... En fait, pour provoquer l'oubli, qu'est-ce qu'on fait ? On détruit une mémoire, on détruit des archives, on remplace une histoire nationale par une autre histoire, on transforme les choses. Et il y a un oubli qui, en fait... Enfin, moi, je perçois en tout cas comme un oubli qui est une forme de violence. Et lui intègre une notion d'oubli dans une valeur positive du terme, où en fait il pourrait y avoir un oubli qui serait en fait une réconciliation avec le passé. Donc c'est de se dire qu'on peut oublier les choses quand on est pacifié en fait avec ces choses, et que l'oubli serait, pourrait être quelque chose de positif en fait. Et je pense que lui, en tout cas comme il en parle, il dit que pour pouvoir oublier les choses, il faut aussi les ramener à une forme de proximité avec nous-mêmes, à une forme d'intimité, pour pouvoir ensuite les laisser partir et les laisser retomber dans l'oubli. Et donc il y a un peu cette idée aussi dans le travail de se le réapproprier par le prisme personnel, de se le ramener à distance et de réintégrer justement des choses qui auraient pu disparaître pour peut-être alors pouvoir les oublier dans le sens de Ricoeur, dans une forme de réconciliation.
Du coup, si, pour répondre quand même sur Ricoeur, Paul Ricoeur qui est un philosophe français qui s'est beaucoup intéressé à ces thématiques de la modernité, alors qu'ils vont aller de la question de la structure de la pensée, de la mémoire, mais aussi du rapport religieux. C'est quand même, il est considéré comme être un peu, on va dire, le philosophe du catholicisme aussi. Hein. Moi, je dis ça parce que je vais dire un truc un peu contre Ricoeur. Donc, mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi, je pense que Ricoeur, il incarne de manière extrêmement forte pour moi. Et là, du coup, là, je parle vraiment d'un point de vue un peu comme juste avant Alexander personnel, une certaine pensée occidentale de la modernité. Et là où il y a une erreur, c'est que la pensée occidentale modernité n'est pas la pensée du monde entier. Et que la limite de cette pensée-là, c'est par exemple effectivement quand Ricoeur il dit « il faut pouvoir oublier pour se réconcilier », c'est les mêmes qui ont raconté l'histoire qui proposent de l'oublier. Et au passage, moi je dis à Ricoeur « ouais, mais il faudrait peut-être que d'autres personnes la racontent aussi l'histoire et après on l'oublie ensemble ». Mais effectivement, la notion, l'idée que quand même il y ait un mononarrateur occidental de l'histoire du monde entier dans la modernité ne lui pose pas assez de problèmes, à mon avis, alors que je pense qu'il va un peu trop vite à la réconciliation avant de parler du moment objectivement conflictuel d'une remise en récit du moment moderne dans un régime conflictuel, quoi, dans une obligation de devoir re-raconter l'histoire contemporaine, notamment occidentale, qui est une histoire coloniale, parce que économiquement, politiquement, et qui de devoir la re-raconter complètement et essayer de voir si on peut tout à fait l'oublier aussi vite. Et si on l'oublie tous à la même vitesse, et si ça a les conséquences, pour être une société. Et quelque part, je pense que, et c'est là que je le vois comme catholique, dans un sens où c'est un philosophe de la réconciliation. Et moi, je dis, mais sur le dos de qui ? Et ça, c'est la critique que je porte au catholicisme occidental. C'est un truc. C'est effectivement, on va se réconcilier, mais le fait de pouvoir se fâcher un peu à des moments donnés sur des désaccords, parce que l'histoire a été racontée que par des hommes et principalement des hommes de la bourgeoisie blanche. Eh ben, tous les autres, ils ont le droit de dire, on va peut-être faire un petit tour dans les autres histoires qui composent nos sociétés, puis après on pourra discuter de... Mais c'est vrai que voilà, c'était ce petit détail-là. En tout cas, c'est très très intéressant, et ça rejoint ce que disait aussi Alexander, de dire que chez Hautley, c'est un homme de son temps, au sens qu'effectivement, il va accompagner la question de la modernité et la question dont la modernité met en récit. Et c'est à la fois extrêmement passionnant, et à la fois, je crois qu'aujourd'hui, on a un rapport ambivalent, que c'est très passionnant, mais très ambigu aussi, vu d'aujourd'hui. Là, c'est Hautley, vu de pas de son temps, mais d'aujourd'hui.
L'idée, excuse-moi, c'est ouais, juste ce qui m'intéressait en tout cas dans le rapport à l'oubli et le rapport, enfin, c'est pour ça que je voulais pas prendre la parole de suite, c'est pour parler justement de cette part de dans les archives d'Hautley, mais du Mondanéum en général, parce que le Mondanéum, c'est pas que Paul Hautley, c'est aussi Henri Lafontaine, mais c'est aussi d'autres personnes qui ont travaillé avec eux. À l'époque, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient pour eux, évidemment, mais ils ont tout de même parlé du féminisme. Et je pense que ça, c'est hyper important, qu'il y a quelque chose... Enfin, moi, en tant qu'artiste queer qui est activiste, il me semble hyper important qu'il y ait cette trace-là aussi, à ce moment-là, et qui puisse être aussi quelque chose, en tout cas un élément qui est primordial dans leur recherche, qui soit et qui se construise dans le rapport des femmes à la société et ce rapport-là, de pas oublier qu'il y a effectivement une partie de cette société-là qui est mise de côté dans la manière de s'adresser, dans la manière d'amener des connaissances ou dans la manière d'échanger simplement, quoi, en fait.
Oui, et juste pour ajouter, dans ce que tu, la suite de ce que tu dis, effectivement, Paul Hautelet, on le voit bien, était effectivement un homme de son temps, progressiste malgré tout, parce que on le voit dans son encyclopédie, effectivement, il y a des planches qui sont sur la question coloniale, sur la question des femmes à l'époque, mais il y a quand même quelque chose qui était assez frappant aussi quand on voit que la construction du mondanéum s'est fait que avec des occidentaux, mais même loin, aux États-Unis et tout ça. Il voulait créer ce mondanéum qui était une cité mondiale des savoirs, mais il le faisait que main dans la main avec des gens, des occidentaux, quoi, des gens du Nord, plutôt blancs, masculins, effectivement. Et voilà.
Moi, je voudrais juste aussi préciser quelque chose par rapport à, pour revenir pour un peu sur le projet qu'on a fait nous, c'est qu'on a, personnellement, je pense qu'on a fait aucun oubli, nous personnellement, parce qu'on n'a pas fait de choix historique et qu'on a fait un choix au niveau d'une histoire, mais d'une histoire qui nous était propre avec nos propres images et qu'on a, enfin les images qui sont présentes par exemple ici ou quoi, c'est des images qu'on a choisies d'une certaine histoire avec un grand H, mais qui du coup sont réactivées mais dans un autre mouvement, quoi. Et qui du coup ne témoigne pas d'un choix historique, ouais, ou d'une vision qu'on aurait sur une histoire passée, mais plus de choisir ce qui nous intéresse dans cette histoire pour les transformer et pour en faire des objets qui nous sont propres dans un présent aussi, quoi.
Alors moi, pour rebondir vraiment là-dessus, je pense que justement, et un des problèmes aussi avec Ricoeur, c'est-à-dire on est un peu dans une troisième phase du travail sur la mémoire, où dans un premier temps, on voyait la mémoire collective comme se construisant à l'intérieur des groupes sociaux. Puis on a vu avec des gens comme Pierre Nora, par exemple, l'État-nation comme étant le lieu justement où on crée la mémoire, où on crée l'oubli. Et moi, j'affilie un petit peu Ricoeur à ce genre de pensée-là, c'est-à-dire que on a toujours des institutions avec un certain pouvoir qui vont façonner la mémoire, qui vont façonner l'oubli. Mais là, on est vraiment dans une troisième phase depuis une vingtaine d'années, qui est fort théorisée, qui est fort travaillée, qui est vraiment des trajectoires individuelles, en fait. Et de se dire, voilà, on est dans un monde qui est devenu multipolaire, dans un monde qui est devenu interculturel, transculturel, postcolonial. Et c'est-à-dire qu'on assiste vraiment à des mouvements où chacun va aller justement faire ce travail d'archiviste, faire ce que parfois... Les notions institutionnelles d'archivistes perdent aussi de leur valeur avec l'explosion de sources sur Google et des choses comme ça. Le problème de dire qu'est-ce que c'est une archive aussi aujourd'hui fait que justement on peut par le biais d'un prisme individuel et parfois justement cette question d'intimité, moi je la vois là, donc vraiment aussi et se dire voilà, nous-mêmes dans notre trajectoire, et alors au plus des gens vont se réapproprier cette mémoire-là, cette histoire, au plus on va avoir justement une diversité. Et quand moi je pense par exemple à la réconciliation, c'est vraiment plus à une échelle individuelle par rapport au souvenir qui me semble constituer mon histoire. Par exemple, la colonisation, que je perçois comme un acte très violent, et comment moi je peux regarder ça, parce que c'est quelque chose qu'on ne regarde pas du tout. C'est simplement le ramener à proximité, donc le refaire émerger. Mais ça valorise la pluralité de démarches, la pluralité d'insertion dans les archives et d'excavation.
Tu comprends bien que ce que tu dis là, dans ce geste individuel, comme quand tu dis en tant qu'artiste queer, c'est-à-dire que tu vas avoir un outil, comme le féministe est un outil pour regarder le monde, comme n'importe quel geste minoritaire est un outil, et donc c'est comme une manière de regarder les choses, qui pour moi a pour fonction d'informer la majorité. On ne fait pas qu'un geste en soi pour soi. Pour moi, un geste minoritaire doit informer la majorité. Il y a des choses que tu ne vis pas avec ton corps ou dans ta trajectoire personnelle et que tu vas être informé par des gens qui les vivent, qui les pratiquent, qui les subissent. Et donc, quelque part, moi, je pense que la question dans ce que tu dis, c'est après le deuxième mouvement. D'accord, on re-rentre par un rapport plus des intimités, du parcours personnel, des mises en relation dans une intimité avec l'archive. N'empêche, il va rester parallèlement une mise en récit étatique. Elle disparaît pas Donc quelque part, c'est un peu comme la haine de la démocratie. Hein. C'est en gros, l'aristocratie ne disparaît pas avec l'arrivée de la démocratie. La plutocratie ne disparaît pas. Ils deviennent simplement des systèmes qui fonctionnent en même temps. Et donc là, c'est la même manière que ce geste de la mémoire individuelle ne fait pas disparaître, et on le sent quand même assez fort à d'autres niveaux, la production du grand récit d'État. On a eu droit en France au rôle positif de la colonisation comme un amendement dans une assemblée. Ce n'est pas juste un discours individuel. C'est-à-dire que l'État accepte qu'on puisse poser un principe générique de rapport à une question comme la colonisation. Parce que moi, l'État est une opinion, c'est une chose, que l'État inscrive dans des textes une certaine relation qu'on doit avoir avec une histoire, prouve que je pense que le moment que tu cites, il ne se passe pas en fait comme un moment unique, il y a son contre-mouvement qui est extrêmement actif en même temps. C'est-à-dire que à d'autres EGSL, les États ou tout un ensemble de pouvoirs font un vrai travail pour pouvoir refermer certains dossiers quand même. Quoi. On arrête de parler de ça. Là, moi, je disais aussi à une amie que c'est un phénomène qui arrive sur toutes les luttes. Quand une lutte va apparaître, le truc que tu entends vraiment presque le lendemain, c'est que ça fait qu'on en a quand même beaucoup parlé de ça. C'est, tu vois, on a l'impression qu'on parle depuis très longtemps des questions minoritaires, par exemple. Tu vois, c'est l'impression que c'est vraiment... Allez, on passe à autre chose, quoi. Et ça, c'est le principe de refermer un espace qui s'ouvre. On doit être vigilant parce que ce qu'on va ouvrir pour soi individuellement, on doit se confronter au fait qu'il y a aussi une dimension collective qui doit se retrouver. Moi, je suis pas contre la question de la réconciliation, y compris collective, de Ricoeur, mais je pense qu'elle doit d'abord être précédée d'un moment où le débat a lieu. Après, on voit si on a envie de se réconcilier. C'est aussi ça, c'est un peu comme...
Mais il y a une différence entre avec une mémoire, comme si c'était le récit d'une mémoire, de dire voilà, ça s'est passé comme ça, et justement, c'est là que le processus est très important. Et c'est là qu'on en revient aussi à l'animation, où l'animation se donne à voir, pas comme le récit, un récit d'une mémoire, mais comme une mémoire en train de se constituer, quoi. Et par ce biais-là, elle se rend aussi visible, accessible, et l'animation, avec ses trous entre les images, laisse, et aussi la manière dont on l'utilise, laisse a priori à vocation à justement laisser un espace d'appropriation. C'est de recentrer sur le processus plutôt que vraiment sur le contenu de la mémoire. Enfin, ça complète plutôt ce que...
Alors, en tout cas, ce qui est juste, je vais juste passer la parole.
No, in fact, I just have a very concrete memory in relation to what you discuss. I think when I started to write with Katrin this first text that was constituted for the first workshop, we came together. When we met the first time writing the text, there was a newspaper on the very same day on the table. With this article, you see this one image there. It's a Berlin newspaper, in fact, and it was the day when the Palace of the Republic had been entirely erased from the urban landscape. They basically, it was a political, a top-down political decision to erase this building as a symbolic act of erasure of a system, in fact. Not considering any kind of civil decision towards it or whatever. And the headline is very nice. It's Der Palast der Republik ist Geschichte. That means like now the Palace of the Republic is history, and the image shows the empty spot, basically, the erased, destroyed architecture. And I think it has a lot to do with this discussion. It's really... For Katrin and me, when we started to write this text, in fact, this was the anti-image. It was really the thing we said, okay, like for us, animation is the counterposition to exactly this constellation in a way. And I think that's exactly what you discuss about somehow. It includes the individuality, the fragmentation, the individuality of the position towards memory, and the reinvestment in a collective, right? I mean, that's a big political question, and I think it cannot end in this individualization. I agree. Yeah. I think it's interesting because it's really, for me, it very strongly binds back to this very first point of discussion.
On va te laisser conclure, parce qu'on va vous inviter à voir des films juste après. C'est toi qui as semé une pression énorme, c'est toi qui as le mot de la fin.
Moi, ce qui me semble intéressant, en tout cas, et ce que, enfin, en reliant en fait un petit peu à ce que tu disais aussi par rapport à la à la contrebalance. Enfin, j'aurais pas dit d'être d'aller contre, en fait, forcément comme étant genre des opposés ou genre des choses qui forcément ont besoin d'être confrontées, en fait, parce qu'il y a toujours cette histoire de confrontation et de bataille, etc., qui semble être nécessaire. Ou et en fait non, quoi. Enfin, je veux dire, la binarité, on sait que c'est pas le seul truc qui marche, quoi, en fait. Et c'est, je crois, dans le travail de Paul Hotlet, moi, un truc qui m'intéresse par-dessus tout, par rapport à ce que tu parles de surfer, etc., c'est qu'à la fois, il te propose un truc qui nous a paru chiant quand même au début, et ça, il faut le dire, c'est qu'en rentrant dans des archives, ben, on est juste face à des archives, et vous savez ce que c'est des archives. Enfin, juste genre, quand on va dans une bibliothèque, on peut être un rat de bibliothèque, etc., mais alors, si on a des bouquins et des bouquins et des bouquins, ben, des fois, au bout d'un moment, ben, c'est un peu ennuyeux, surtout quand on sait pas trop où ça va, quand, etc. Et donc, c'est des vieilles pages qui sentent un peu la poussière, etc., et donc, il y a aussi un rapport physique qui est comme ça, un peu. Et je pense que c'est par rapport à cet ennui-là aussi qu'on s'est permis, en fait, de pouvoir jouer avec, quoi, parce qu'on s'est dit, ben, maintenant, on a ça, et on doit aller avec ça. Et c'est notre manière, en tout cas, de vraiment de transformer ce rapport-là, en tout cas avec ces archives-là, et de surfer, en fait. On surfe par le jeu, on surfe par l'activation, et on surfe par sur ces objets qui sont là, qui ont cette valeur-là, et on les fait changer de position aussi en jouant avec, quoi, en fait, simplement.
Je pense que pour juste peut-être rajouter un post-scriptum, parce qu'il y a une chose qui m'est venue à l'esprit à l'instant, donc la manière dont tu le dis, donc peut-être intéressant de le dire aussi, c'est qu'on utilise aussi, parce que ça vient aussi de l'anglais, l'expression jouer pour jouer de la musique. Je pense qu'il y a une chose qui me semble aussi intéressante et relativement équivalente pour des cultures où la question de la mémoire est un endroit extrêmement compliqué. Moi, c'est le cas d'une culture que je connais bien, qui est la mienne, qui est la culture caribéenne, et dans laquelle, finalement, ce qui va émerger comme geste culturel est un geste de jeu et de montage, et qui va être la culture des toasters, de jouer des musiques, jouer des disques, les monter, les découper le temps et l'espace avec une platine. Donc, quelque part, partir du fait qu'en fait, on ne peut pas remonter à un héritage. Donc, il y a une forme de renoncement à cet endroit-là, et que tout va se jouer dans une fabrication de la mémoire, dans un usage. Et donc là, un usage, on pourrait dire queer, un usage pas autorisé, un usage pas comme il faut, des ressources en présence. C'est-à-dire que comme il y a la possibilité d'aller dans la verticalité de l'histoire qui est traumatique, parce que tu reviens quelque part du pays des morts, en fait, ton origine, c'est la mort, si tu veux rester dans le vivant, ça veut dire que tu t'autorises à faire un geste non autorisé, de contrebande, une forme de piraterie où tu vas assembler des choses qui ne doivent pas aller ensemble, faire jouer des musiques les unes avec les autres, faire changer les vitesses des choses. Tu disais, quand tu as parlé de changer le niveau, j'ai pensé à ces questions de platine, donc faire changer le rapport des différentes couches des choses pour faire apparaître des choses bizarres. Et ces choses bizarres deviennent ta culture. Et du coup, je suis d'accord avec toi dans cette idée-là. La question même, y compris du minoritaire, n'est pas une question de confrontation. Par définition, tu n'as pas les moyens de la confrontation. Donc, tout est dans la ruse et tout est dans le trou de l'animation. Peut-être que l'animation, c'est aussi se faufiler entre les formes, entre les images, entre les espaces établis. C'est-à-dire, c'est une culture de l'interstice. Et encore une fois, quand j'utilisais le surf pour le réhabiliter, c'est comme quand on utilise le terme de ruse, que je veux aussi réhabiliter pour justement peut-être défaire une culture d'héroïcisation, de héros qui va combattre frontalement, alors que quand on est en minorité, on ne peut pas combattre frontalement. Et ce n'est pas une forme de lâcheté. C'est une impossibilité de gagner par la frontalité. Donc, on use de la ruse comme on fabrique en surfant.
Parce que la frontalité, c'est juste pas la seule réalité, et parce que comme Isabelle Stengers s'en parle, c'est que si on veut rentrer dans la maison du maître, si on veut la démonter, il faut pas la démonter avec les outils du maître, il faut la démonter avec des outils qu'on invente soi-même, quoi, en fait. Et c'est ça qui est super intéressant, en fait, parce que cette frontalité là, on en a pas besoin, c'est juste aussi les outils du maître, en fait.
Merci à vous, en tout cas, merci à tous. Thank you.